Les responsables de l'Église de m'avoir invité, c'est toujours un pas de confiance qu'on fait quand on invite un prédicateur qu'on ne connaît pas. Alors en plus, moi je suis un peu atypique, avec mon accent, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait en Suisse celui-là ? Bien voilà, je m'appelle Francis Pfister, je suis né dans le sud-ouest de la France d'un fils de migrant. Mon père est un migrant du canton des Grisons dans le sud-ouest de la France. Ça a existé, ça, dans le temps. Hein voilà. Et là, il a rencontré une gentille Française en Gascogne, le pays du foie gras, et c'est là qu'il s'est passé ça, et me voilà aujourd'hui. Hein Alors, je connais un petit peu l'église de réveil par... Alors, ma femme qui est là, chérie, bon, lève-toi que tous voient combien t'es belle. Hein voilà. Elle est la troisième fille de monsieur et madame Wüttrich. Donc Ursula est la fille aînée. Après, il y a Elsbeth, la femme de Dominique Fontaine. Puis après, il y a un garçon entre deux. Puis il vient aussi Tabea. Voilà. Et Eduardo, que vous connaissez. Et alors, moi, Eduardo m'avait invité à venir prêcher ici dans l'église, mais c'était quelque part là-haut, à ce moment-là. Hein, je ne sais pas. Voilà. Alors évidemment, quand on s'appelle Francis Pfister et qu'on a l'accent du Midi, ça trompe un petit peu. Ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais jeune pasteur stagiaire à Berne, c'est là que j'ai commencé mon ministère, à la Gemeinde für Christentum, qui s'appelle aujourd'hui Bewegung Plus. Il y en a une ici aussi à Bienne d'ailleurs. Hein. Et un missionnaire qui s'appelait Hans-Rudi Widwer est parti au Burkina Faso. Et il devait prêcher à Lausanne. Alors il m'a dit, Francis, j'aimerais bien que ce soit toi qui me traduise. Je suis allé avec. J'ai appris un peu plus tard par Madame Renevier qu'il s'était dit dans le conseil, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui, ce Suisse-Allemand, d'amener un Suisse Toto pour le traduire? On a des frères ici qui savent ça, faire ça fort bien. Puis on arrive, et quand la prédication commence, je commence à traduire, à la deuxième phrase, toute l'église a éclaté de rire. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Et puis finalement, non, ils ont dit, c'est parce qu'ils s'attendaient à un traducteur, à faire le bon Suisse fédéral, et puis voilà que c'était tout le contraire. Voilà, et donc, voilà. Ça un petit peu pour l'anecdote en ce qui concerne cela. Alors, ma femme et moi, nous nous sommes mariés en 1979 à Berne, il faut dire 79, hein. Nunesibetzig, voilà, comme ça c'est plus facile. Hein. Comment ? Et nous avons eu trois fils. Le premier est né à Berne. Il est aujourd'hui pasteur en région parisienne, dans le cadre de l'Église apostolique. Après 4 ans à Berne, là j'étais jeune, on m'a muté à Zurich. Vous savez, à Zurich, à ce moment-là, c'était dans les années 80, il y a un gros problème qui a surpris tous les Suisses, surtout les Suisses allemands, avec ces fameux autonomes Jugendzentrum, là. Parce que les jeunes... parce que les dealers étaient dérangés, allaient à la Bahnhofstrasse casser toutes les vitres tous les week-ends. Hein. Et ils avaient une vieille usine à côté de la gare qu'ils avaient accaparée et qu'ils voulaient pour faire leur... voilà. Et parallèlement au problème de la ville, il y a eu un problème aussi dans l'église. Ça arrive dans les églises qu'il y ait des problèmes. Hein. Et puis on m'a envoyé là-bas pour aider à restaurer le travail de l'église et Dieu a merveilleusement béni. Je dois dire, les temps à Berne, c'était aussi, dans les années 70, un temps de gloire. D'ailleurs, ici, à Bienne, il y avait un groupe qui s'appelait le J'y crois. Je ne sais pas chez qui c'était, parce que j'ai un petit frère, qui était venu aussi du Sud, qui ne comprenait rien au Suisse allemand, et qui avait ouvert son cœur à Jésus, donc il venait au groupe J'y crois, ici à Bienne. C'est comme ça que je me rappelle que ça existait. Et donc, à Berne, c'était les temps glorieux, on évangélisait, et les gens se convertissaient. On a vécu ces belles choses. Un jeune qui fumait le joint, qui travaillait plus bien à l'école, qui était toujours en bagarre avec ses parents et tout ça. Il vient, il se convertit. Et à ce moment-là, il y avait encore des belles conversions, ça existait. C'est devenu un peu plus rare, mais ça va revenir. Hein. Et donc, le jeune, on lui disait, il faut que tu arrêtes de fumer, ceci, cela. Donc, péniblement, il y arrivait. Il commençait à mieux travailler, être plus gentil avec ses parents. Les parents étaient contents. Mais après, il se disait, mince, qu'est-ce qu'il fait mon fils? Le mardi, il va à l'étude biblique. Le vendredi, il va à l'évangélisation. Le samedi, il va au groupe de jeunes. Le dimanche, au culte. Ça ne serait pas une secte dans laquelle il est tombé? Alors, il commençait à avoir des problèmes. Et là, je disais, écoute, je vais venir faire une visite à tes parents, si tu veux. Et quand on y allait, après, je leur expliquais que j'avais trouvé un système. On disait, c'est le service après-vente, vous comprenez? Voilà, si vous ne voulez pas que votre fils retombe avec les vieux copains, il faut qu'il soit avec les nouveaux qui, eux, l'influencent bien. Et ça a amené après que les parents... Puis je dis, mais venez voir! Et alors, quand ils venaient voir... Alors, comme c'était un temps glorieux, justement, à ce moment-là, cette église à Berne, on avait le mardi soir 250 à 300 personnes à l'étude biblique. Il y avait le groupe de jeunes, 50 à 70, qui faisaient la louange. Alors, les parents, ils arrivaient, et ils croyaient aller dans une secte, et puis ils voyaient des jeunes. Et après, le gars était tout fier de dire, il faut dire, ah, c'est mes parents. Alors, tout le monde allait leur dire bonjour, et comme ça, on a eu beaucoup de parents qui ont rencontré Jésus. C'était les temps lumineux qui vont revenir, hein. Vous êtes d'accord que ça va revenir? Parce qu'on ne veut pas rester dans la nostalgie du passé, on veut croire... Je vous dis ça pour vous encourager un petit peu. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Il faut me dire à quelle heure il faut finir. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est bien que vous sachiez un petit peu qui est là au milieu de vous. Parce que moi, je n'aime pas quand un prédicateur vient, qu'on ne le connaît pas, et puis il commence à faire sa leçon, et puis on ne sait pas à qui on a affaire. Voilà, donc après, à Zurich, on a été 3 ans là-bas, et... Là, nous est né notre Michael, nous a donné beaucoup de soucis quand il est arrivé à l'adolescence. Il s'est mis à fumer le joint, il n'a pas eu le bac, on ne savait plus quoi faire. J'ai dit une fois à ma femme, je ne sais plus quoi faire, j'ai envie de le tuer. Hein? Elle me dit, Francis, prions. Hein? Voilà. Et savez-vous quel choix aujourd'hui que j'ai? Entre-temps, ça a duré 10 ans quand même, mais entre-temps, il est revenu au Seigneur, il a marié une jeune fille métisse qui a grandi à Kiev, en Ukraine. Et parce qu'on avait des échanges après la chute du mur de Berlin et du bloc communiste, j'avais organisé depuis mon église à Dieppe de l'aide humanitaire pour ces gens-là et tout ça. Parce qu'on avait des contacts autrefois hein, où on allait livrer les Bibles. Hein. Je me rappelle, dans toutes nos églises, il y avait un panneau. C'était toujours en allemand, hein, parce que moi, je n'ai pas été dans des églises suisses romandes, mais enfin, il y avait Abtiruns vergessen, c'était est-ce que vous nous avez oublié? Puis c'était très foncé, puis de plus en plus clair, de plus en plus clair, de plus en plus clair, et à la fin, on ne pouvait plus lire le mot, et en dessous, ça s'appelait Die Verfolgte Brüde, les frères persécutés. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle les chrétiens persécutés, parce qu'on pense aussi aujourd'hui qu'il ne faut pas dire que messieurs, hein, faut dire aussi mesdames, voilà. Et donc, j'ai d'ailleurs failli aller à un voyage, puis mon pasteur m'a interdit, parce qu'il avait peur que je me fasse arrêter, comme ça déjà arrivé. Et donc, on avait des contacts. Et après la chute, je suis allé, et puis voilà, et le Seigneur a permis qu'on fasse de l'aide humanitaire. Et ainsi, mon fils a trouvé... Il est tombé amoureux de cette gentille ukrainienne métisse, dont le papa est mauritanien, la maman, une chrétienne qui a un moment de flottement et qui, avec cet étudiant africain, a fait un bébé. Et ma belle-fille est adorable. Et ça a beaucoup aidé à ce qu'il revienne au Seigneur. Et aujourd'hui, cerise pour le gâteau, c'est lui qui reprend l'église où j'étais le pasteur, là, parce que maintenant, Dieu nous conduit vers une nouvelle époque. Et donc, j'étais à Dieppe ces 7 dernières années, et c'est lui qui maintenant est devenu le pasteur de cette église. Alors, donc, ça, c'est une grande joie. Vous pouvez vous imaginer. Déjà, un pasteur, il est heureux quand son fils veut aimer l'église comme le père l'a aimé, mais en plus, là, c'est doublement. Voilà. D'ailleurs, une église que nous avons aussi, qui a été très perturbée, il y a eu aussi beaucoup de problèmes dans cette église, mais le Seigneur a fait grâce. Et maintenant, il y a un renouveau dans cette église, et c'est merveilleux de voir comment Dieu agit. Dieu agit, et c'est pour ça que je dis, il faut toujours avoir une perspective que l'avenir sera bien avec le Seigneur. Comme nous le lisons dans l'Ancien Testament, la gloire de cette maison sera encore plus grande que l'ancienne. Voilà, et donc nous avons été dans maintenant, alors en 84, nous avons été envoyés comme missionnaires de Suisse en France. Ça ne plaisait pas trop aux Français qu'on leur envoie des missionnaires, mais ils étaient bien contents parce qu'ils avaient des églises qu'ils n'arrivaient pas à tenir et il n'y avait personne pour s'en occuper et il n'y avait pas de sous pour payer leur salaire. Et donc la Suisse a fait du bien là, dans cette situation. Voilà. Et puis là-bas, à Dieppe, on a eu un troisième fils qui s'appelle Timothée, qui lui est dans l'église de son grand frère et s'occupe du travail parmi les enfants. Et ils vivent aussi dans cet endroit de la région parisienne des bons moments. Alors vous savez, la région parisienne, 60% de la population sont des gens issus de l'immigration. Et c'est pour ça que les églises vont bien. Parce que là où il y a, en région parisienne, là où il n'y a pas de gens de l'immigration, les églises, elles ne vont pas très bien. C'est un cadeau du Seigneur que le Seigneur nous a envoyé, des gens issus de l'immigration. Même si après, il faut qu'on adapte nos cultures, et nos façons de faire, et nos façons de manger, et tout ça, bon, bref, hein, voilà. Bon, maintenant, vous savez à qui vous avez affaire, hein. Je vais pouvoir emmener mon message. Il faut me dire quand même 11h15 comme ça à peu près, c'est ça ou bien ? Oui. Ah non, parce que, voilà. Mais bien qu'on dit souvent, vous savez, quand un prédicateur regarde sa montre, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Ah, excusez-moi, je ne sais pas si vous le mettez là sur l'écran. Deux Rois chapitre 4. Versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Oh, ta servante n'a rien. Ah, si, excuse-moi. Un petit vase d'huile. » Et il lui dit, « Tu as un petit vase d'huile à la maison ? Parfait. Maintenant, ce n'est pas écrit ça, c'est seulement pour que vous compreniez un petit peu ce que j'imagine qui s'est passé. Va en dehors et va chez... Frappez à la porte de tous les voisins et ramasse tous les vases vides. » Je pense, quand je lis ce passage, je pense, j'aime bien faire les confitures, moi. Hein, et je demande toujours des pots vides, parce que j'en fais les confitures, pas pour nous, hein, parce qu'il ne faut pas manger trop sucré, mais on en donne un peu partout, et donc voilà. Mais ça se trouve facilement, des pots de confiture vides, ça se trouve facilement. Là, des vases vides. Et il lui dit, va chercher des vases vides chez tes voisins, et attention, hein, n'en prends pas un petit nombre. Prends des sacs Migros pleins, hein, de vases vides. Oui, là aussi, vous avez compris que ce n'est pas écrit que la Migros avait des bons sacs dans le livre des Rois. Ensuite, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Maman, il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Et là, elle alla dire à l'homme de Dieu ce qui s'était passé. Et il dit, « Va vendre l'huile, paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Une belle histoire. N'est-ce pas une belle histoire ? Et je voudrais dire ici, en priant, en préparant ce message, j'ai le sentiment que le Seigneur veut aider quelqu'un parmi nous qui est dans un moment d'épreuve difficile et qui est un peu désespéré. Et le Seigneur a une réponse pour toi et veut te bénir ce matin. Alors, j'ai intitulé cette prédication « Un désastre qui devient une épreuve surmontée ». Un désastre qui devient une épreuve surmontée. Voilà ce qui est arrivé. Alors, nous voyons ici qu'une femme qui est l'épouse d'un bon serviteur est dans l'épreuve. Et les trois sujets que j'aimerais un petit peu illuminer devant nous de ce passage, c'est l'épreuve, le secours, le miracle. L'épreuve, le secours, le miracle. Si tu es éprouvé, il y a un secours et il y a un miracle à la clé. Oui, l'épreuve peut toucher le fidèle serviteur, comme nous le voyons là. Oui, Dieu vient au secours du malheureux. Oui, par l'obéissance à sa parole du Seigneur, on sort de l'épreuve victorieux. C'est-à-dire, la fin du verset du psaume 103 que vous avez lu, là, justement, comme j'avais cette prédication en tête, j'ai un peu flashé là-dessus, où il est écrit... En obéissant à la voix de sa... Vous, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Voilà. Donc, je répète, l'épreuve qui peut nous toucher, le secours que Dieu enverra et la victoire par l'obéissance à sa parole. Alors, l'épreuve touche le serviteur de Dieu. La femme, là, elle lui dit, ton serviteur, mon mari, dont c'était, on lit là, c'est un fils des prophètes, les prophètes, c'était ceux qui étaient avec des, à l'école, je dirais, de grands prophètes, comme Élisée ici était un fils de prophète de Élie avant, n'est-ce pas? Et donc, elle lui dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le serviteur qui craignait l'Éternel. Alors, on peut lire dans le Deutéronome un petit peu pour comment la description du style de prophète dont cet homme devait être et ce qui aurait pu, ce qui permettait à l'épouse de dire ton serviteur qui se craignait l'Éternel. En effet, on lit sur le prophète au chapitre 18 du Deutéronome et verset 20 où le test du prophète est ici décrit et dans lequel il faut rentrer, sinon on n'est plus un prophète qui craigne l'Éternel. Le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. On n'y allait pas avec le dos de la cuillère à ce moment-là. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Encore faut-il avoir un critère de jugement, n'est-ce pas? Eh bien... Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, car c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie point peur de lui. Alors là, la femme dit clairement à Élisée, tu sais que mon mari était un des fils des prophètes et il craignait Dieu, il était un bon. Et d'ailleurs, nous avons au début du livre des rois, d'ailleurs, quand le fils des prophètes, alors était-il dedans cet homme, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il va dire à Élisée, Élisée, tu sais qu'il va partir aujourd'hui. Il le savait déjà les prophètes. Hein, et même Élisée n'était pas très content parce qu'il ne voulait pas qu'elle y parte. Et il leur dit, taisez-vous. Hein, voilà. Mais ça, c'est le père des prophètes pour le dire aux prophètes. Donc voilà, ça c'était pour dire... On a ici un élément de compréhension qui nous permet de croire que ce prophète était un bon. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais bien, en début de cette prédication, bien relever ici, un prophète qui craignait l'Éternel, qui était un bon prophète, comme je viens de vous le démontrer, est mort. On peut être un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui craint l'Éternel et subir des difficultés et des problèmes. Trop souvent, moi je me rappelle quand je me suis converti, je pensais qu'à partir du moment où j'allais me convertir, je n'allais plus avoir de problème. D'ailleurs, j'ai même cru, quand je me suis converti, qu'en étant dans l'église, je n'allais trouver que des gens gentils. Vous savez ce qu'on dit en Normandie ? Gentil n'a qu'un œil, toi t'en as deux. Hein? Voilà. Donc, mais, et finalement, ben, je me suis aperçu que c'est pas le cas et que nous ne sommes pas encore dans la perfection de l'éternité. Et donc, nous savons, et j'aimerais nous dire ici, si vous aviez l'illusion que parce que vous êtes devenu enfant de Dieu, il y aura problème zéro, eh bien, je pense que vous allez bien vite être déçu ou alors je ne sais pas quoi. Hein, voilà. En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire que je pense avoir été aussi un serviteur qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui a tout fait pour faire la volonté de Dieu. Mais j'ai aussi fait des erreurs et j'ai aussi été éprouvé. Donc voilà, ce matin, j'aimerais dire à chacune et chacun d'entre nous, vous êtes éprouvé ? Bravo ! Bienvenue au club. Mais là, ici, cette épreuve, c'est pas rien. Le brave prophète, il s'est endetté parce que, bon, il s'est dit, il avait un bon revenu, ça se passait bien, bon, et puis il a investi pour bien que sa femme et ses enfants soient bien et tout ça. Il s'est endetté et puis il meurt. Il y a des choses avec lesquelles on ne compte pas dans la vie. Vous savez, il faut faire attention. Hein. On pense toujours qu'on va vivre éternellement. Hein. Vous savez, la pandémie, moi, elle m'a calmé dans un domaine. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, alors ça date de longtemps, quand on parlait sur les signes des temps. Alors, les signes des temps, il y a Israël qui va redevenir une nation avec guerre, probablement la guerre d'Armageddon là-bas au Moyen-Orient. Après, il va y avoir des catastrophes naturelles. De ce temps, on ne parlait pas encore du réchauffement de la planète. Au contraire, quand même il y a des gens ici en Suisse qui disaient que les glaciers commencent à fondre, on disait « Oh, c'est des fabulations. Il y a toujours eu des moments, etc. » Bon, après, il y a les guerres. Et puis, on aimait citer Matthieu 24 quand Jésus disait « Il y aura des pestes ». Et puis je disais « Ah oui, voilà ». Alors j'aimais lire ça et dire. Et quand j'évangélisais, je dis « Vous savez, il va y avoir » et tout ça. Mais à ce moment-là, toutes ces choses arrivaient plutôt, pour nous du moins, là-bas en Afrique, en Asie, tout ça. Hein. Mais chez nous, on a de toute façon les meilleurs hôpitaux de la terre, hein, les Français surtout. Hein. Oh, les Suisses aussi. Hein, le Inselspital, là-bas, ils sont bien aussi, hein, je peux vous le dire. Et n'est-ce pas, Ursula ? D'ici, c'est route. Hein, voilà. Bon, et puis, tout d'un coup, vient une consigne gouvernementale. Reste chez toi, Francis. Tu risques de choper la Covid-19 et d'en mourir. Puis on nous dit, là-bas des gens meurent, là, tout ça, etc. Et tout d'un coup, je m'aperçois que ce n'est pas seulement au loin, dans les pays pauvres, ces signes des temps. C'est chez moi. Chers frères et sœurs, c'est ça. Alors là, maintenant, il y a toutes les réactions. Vous connaissez tout le débat. En France, on est des grands. Vous savez, nous avons tous les week-ends des manifestations à cause du pass sanitaire parce que, ça y est, on est sous la dictature. Après le vaccin, etc., etc. Et je vais vous dire, tout ça, tout ce que disent les gens, tout est vrai, mais ça ne doit pas, ça doit pas impacter le chrétien. Moi, je ne suis pas assez scientifique, même si je crois certaines objections par rapport à tout cela. Mais ce que moi, j'ai un jour découvert, parce que je me suis posé la question, par exemple, moi, c'est-il qu'il faut se faire vacciner ? Je me suis aperçu, je ne vais plus pouvoir faire de visite à l'hôpital, parce que quand je vais rentrer à l'hôpital, on va demander mon pass sanitaire. Je ne vais plus pouvoir aller visiter mes frères africains qui me demandent de venir, etc. Et puis, bon, au restaurant, je n'y vais pas souvent, parce que comme j'étais cuisinier, je ne vous ai pas dit que j'ai fait mon apprentissage de cuisine à Bahnhof Buffet Basel et je me suis converti quand je travaillais à Berne. Je travaillais dans le Bellevue Palace Hotel, un des plus beaux hôtels de Berne. Hein. C'est justement pendant ce qu'on appelait la Zimmerstunde, la pause, que je me promenais dans les rues de Berne, que des jeunes de l'église de Berne chantaient des chants et j'ai pris un prospectus et ça m'a attrapé. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, je vois tout cela. Et puis, finalement, quand je me suis posé la question, je me suis dit, mais tout d'un coup, Dieu m'a dit, mais Francis, qui est-ce qui tient ta vie dans sa main? C'est vrai, quand je suis venu de France, à 130 à l'heure, nous on peut encore rouler à 130, il ne faut pas brûler les bus parce qu'il y a beaucoup de radars. Hein, ça, tous les gouvernements ont compris comment on fait des sous. Hein, et voilà. Et j'ai appris hier soir avec stupéfaction que les Suisses sont plus sévères encore que les Français dans ce domaine. Si on a un accident responsable, on peut perdre son permis. Ça, c'est impensable. Non, mais ça, c'est impensable. Ça, c'est... En France, ça va donner la révolution si on fait ça. Mais vrai. Et donc, le Seigneur m'a dit, mais ta vie, elle est dans les mains de qui? Et tout d'un coup, je me suis dit, eh oui. Et j'avais peur du vaccin. Et puis, je me dis, il faut le faire. Et puis tout d'un coup, Dieu m'a dit, mais... Il m'a dit dans ma parole, et s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Combien de fois je cite ce verset en pensant aux Africains et aux Asiatiques qui n'ont plus d'eau potable, hein? Parce que nous encore, on croit du moins qu'on a de l'eau potable. Hein? Voilà. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais, et ça c'est important que nous ayons cette vision, ma vie, notre vie, elle est dans les mains du Seigneur. Et tous les débats, alors du coup, maintenant, moi, je suis sorti de tous ces débats, j'ai mes idées, que je ne vais pas vous dire, mais, mais ce qui est important dans cela, ma vie est dans les mains du Seigneur. Et j'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, vis en tant que chrétien dans cette certitude, ce n'est pas un accident de la route qui me tuera, ce n'est pas la Covid, ce n'est pas le cancer ou quoi que ce soit, mais c'est le Seigneur qui me rappellera à lui. Vous avez tous connu probablement l'ancienne génération David Wilkerson. Hein, moi, ça a été mon premier service pour le Seigneur. Quand je suis allé, il y avait à ce moment-là Teen Challenge en Suisse, et à Kapzentrum, à Amden, c'est au-dessus de la Wallensee. Et il y avait un centre de réhabilitation et le Seigneur m'a conduit que j'ai été là-bas pour travailler dans ce centre. David Wilkerson, il envoyait une méditation tous les jours. Un homme de Dieu remarquable, il a une des plus grandes églises, juste à côté, l'église la plus proche des tours de Manhattan d'ailleurs, hein, une grande église là. Et il a envoyé une invitation. Et un matin, il envoie, ce ne sera pas un accident. Et il avait donné un témoignage comme quoi, sur la route, notre vie est dans les mains du Seigneur. Et si on meurt là, ce n'est pas un accident, c'est le Seigneur qui nous rappelle. 2 heures après, il avait un accident et malheureusement, il est parti pour la patrie céleste. Et ça, moi, ça m'a marqué, puis je me suis dit, mais voilà dans quelle attitude on doit vivre. Et je pense, comme David Wilkerson est connu dans le monde, que Dieu a permis cela pour nous donner une leçon. Nous devons rester dans ça. Bon, voilà. Maintenant, nous avons réglé notre problème de l'homme de Dieu qui est mort. Hein? Maintenant, nous allons voir la catastrophe dans laquelle se trouve tout d'un coup l'épouse. C'est pour ça que je dis... ce message, le désastre qui va devenir une épreuve surmontée. Et voilà, maintenant, nous allons voir comment ce désastre va être surmonté. Eh bien, nous voyons ici, le prophète vient. Alors, je dis maintenant, tu es dans l'épreuve. On peut dire tu ou je dis vous, c'est pas poli de dire tu. Enfin, bon, allez, vous. On dit tu aussi, à Jésus, on peut dire tu. Hein, voilà. Tu es dans l'épreuve. Tu es un peu désespéré. C'est normal. Quand on est comme la veuve là, elle est dans l'épreuve, elle est désespérée. Et à ce moment-là, Dieu envoie Élisée. Je suis certain que dans l'épreuve, Dieu envoie quelqu'un ou une parole de la Bible. Peut-être des fois, ça peut être le pasteur, ça peut être un ancien, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un comme ça. Mais parfois, ça peut être aussi une lecture. Mais dans l'épreuve, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il faut que je le redise plus fort. Dans l'épreuve, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et en plus... Il va donner une solution. Et voilà, maintenant, la femme, dans l'épreuve, est confrontée à l'homme de Dieu qui vient, et elle ne le sait pas encore, mais il a une mission pour elle. Et le prophète lui dit, « Oui, je sais, Enfin, il le dit, c'est pas écrit, mais c'est moi qui le dis, ça. Hein. Oui, oui, je sais. C'était ton mari, c'était un très bon prophète, très consacré. Il prophétisait juste. Il portait un bon témoignage. Oui, oui, je sais. Là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Un tel homme ne devrait pas avoir de problème, n'est-ce pas ? Hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'il faut que ça rentre un petit peu dans nos têtes que même quand on aime le Seigneur, on peut avoir des problèmes. Et alors, il lui pose la question, que puis-je faire pour toi ? Ça nous rappelle devant la piscine de Bethesda, où Jésus dit, qu'est-ce que tu veux ? Et c'est intéressant d'ailleurs dans la piscine de Bethesda, l'homme, on comprend, hein, depuis 38 ans, voir toujours un autre guéri devant parce que personne ne me jette, j'ai personne qui m'aime. Hein. Et puis, Jésus lui dira, qu'est-ce que tu veux ? Et là, le prophète lui dit, que puis-je faire pour toi ? Je ne sais pas ce que la femme a répondu. Je ne sais pas. Mais je m'imagine les chrétiens que nous sommes. Hein ? Seigneur, qu'il y ait une offrande dans l'église, pasteur, qu'il y ait une offrande dans l'église et que les riches donnent correctement pour payer mes dettes. Je ne sais pas. Oh, quelqu'un de païen dira que je gagne au loto. Hein ? Un chrétien, ça ne joue pas au loto en principe. Hein ? Bon. Aïe, 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 j'ai dit une bêtise là. Hein ? Voilà. Et puis, il pose une deuxième question. Qu'as-tu dans ta maison ? Et là, on a la réponse de la personne dans l'épreuve qui nous ressemble à 100%. Je n'ai rien. Tout est parti. Je n'ai plus rien. Et elle se reprend. Alors, je ne sais pas si elle fait ça dans la foulée, si elle dit, ah, oui, en fait, oui, j'ai quelque chose. J'ai un vase d'huile, mais sans farine, impossible de faire un gâteau hein, ou un morceau de pain. Ouais, un peu d'huile. Et là, j'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, qui est dans l'épreuve, qu'as-tu dans ta maison ? Qu'as-tu dans ta vie ? Qu'as-tu dans ton cœur ? Pour que le Seigneur puisse avoir un point de contact pour faire le miracle. C'est intéressant ici ce passage, parce que ça nous sort un petit peu de nos... je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire autrement, hein, mais... mon expérience pastorale me permet d'oser vous dire ça. Souvent, quand on est dans l'épreuve, pour en sortir, on a aussi quelque chose à faire et Dieu ne va pas tout faire. Mais moi, j'aime bien quand Dieu fait tout. N'est-ce pas ? Et donc là, elle lui dit, mais qu'as-tu dans ta maison ? Un peu d'huile. Et là, le prophète lui dit, « Ah, t'as un peu d'huile. » Alors, nous en France, on dit, ce n'est pas un proverbe biblique, alors prenez-le avec parcimonie, « Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein » Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein bon. Mais ça y ressemble quand même hein, à ce que Dieu fait ici. Il lui dit, bah, « Écoute, ah, t'as un peu d'huile. » Ah, vous savez, l'huile en plus, ça symbolise le Saint-Esprit aussi quand même. Hein donc, prophétiquement, ça veut aussi dire, « Ah, t'as quand même un peu d'onction. » Tu n'es pas complètement dehors. Alors il lui dit, écoute, va chercher des vases vides. Ici, on demande à cette personne en détresse éprouvée de faire quelque chose qu'elle peut faire facilement et qui ne coûte rien. Tout le monde en a des vases vides à donner. Tout le monde en a. Va les chercher. Donc elle est allée les chercher, elle les a ramassés. Va chercher des vases vides. Et puis attention, hein. Ne t'arrête pas trop vite, parce que quand tu auras deux sacs Migros pleins, prends de nouveaux sacs, hein, pas seulement deux sacs Migros, plus. Hein. Et vous avez compris mon image, n'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et donc, pas qu'un peu. Et puis, il lui dit ensuite, quand tu auras ramassé tous ces vases, eh bien, rentre chez toi et ferme la porte. Et ici, un des moments pour la personne qui est dans l'épreuve, qui a fait la première chose que Dieu a demandé. Lâche tout ce qu'on pouvait faire facile. L'huile, elle l'avait déjà. Les vases vides, ça ne coûtait rien, il suffisait d'aller les chercher. Et après, il lui dit, quand tu seras rentré, quand tu auras ramassé tous ces vases, eh bien, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et ici, chers frères et sœurs, moi je vois l'image de l'intimité dans la prière avec le Seigneur. Maintenant, tu as ramassé les vases vides. Maintenant vient le moment de la communion avec le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus dit, lorsque tu pries, ferme la porte, va dans la chambre, Dieu qui voit, n'est-ce pas? Donc, ça ressemble un peu à ça, c'est pour ça que je fais le rapport avec ça. Là, j'y vois le moment de l'intimité dans la prière. Et j'aimerais nous dire ici, chacune et chacun d'entre nous, quand nous sommes dans l'épreuve, combien il est important que par la prière, nous exprimions notre confiance au Seigneur et nous attendions à ce que le Seigneur veut faire. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, Dieu répond à nos prières. Et il va répondre, il va répondre. On y voit la prière. Et puis, la deuxième chose, il lui dit, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, donc vous prierez en famille, et tu verseras dans ces vases de l'huile, le moment de foi. Imaginez-vous ce que ça veut dire, ça. Tu vas chercher des vases vides, ils sont là sur la table, et il y a un petit truc, un petit vase. Et maintenant, je vais vider, et ça va remplir tous les vases. L'élément de foi. L'élément de foi. Il y a un moment où notre foi est aussi requise par le Seigneur pour nous sortir de l'épreuve. Alors là, je pourrais donner un exemple que nous retrouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et d'ailleurs dans les quatre évangiles, sur la multiplication. La foule est là, et les disciples, ils connaissent Jésus, ou ils ont déjà entendu, il y en a un qui dit, il faut les renvoyer, Seigneur, parce que... Et puis Jésus dit, non, on va leur donner à manger. Il dit, mais attendez, il faudrait 200 deniers, je crois qu'un denier, c'était à peu près le salaire d'une journée de travail. Et puis, on n'a pas de semi-remorque pour amener tout ça, hein, voilà. Vous imaginez, 5000 personnes sans compter la femme et les enfants, combien il faut de pain et de poisson et tout cela, hein. Imaginons-nous la truc. Et là, Jésus leur dit, non, c'est vous qui allez leur donner à manger. Le défi dans lequel Jésus met ses disciples. Ils me disent, mais alors il y en a un disciple qui est toujours le sceptique, qui est toujours là, André. Il a compris que le Seigneur allait demander, donc il a dit, je vais montrer au Seigneur que ce n'est pas possible. Il est allé à la recherche, il a trouvé 5 pains et 3 poissons, hein, c'est ça? C'est 3 ou 2? 2, voilà. Comme les gens du Sud, on a tendance à exagérer. Hein. Je mettais un poisson de trop. Voilà. Et donc, oui. Et il vient et dit, Seigneur, t'es bien gentil, Seigneur, mais voilà, les 5000 sont là. Voilà. Le casse-croûte d'un garçon dont la maman a été prévoyante. Le défi, c'est impossible. C'est impossible. Tous les disciples disent, et là, Jésus fait aussi quelque chose avec les disciples. Je me suis dit, mais ça a dû être dur pour eux. Ils sont avec la réalité, il n'y a que ces poissons. Il y a les 5000 personnes. Et Jésus leur dit, avant d'avoir prié et multiplié, vous les faites asseoir, vous dites, à table tout le monde, hein? Et vous vous asseyez en groupe, à table. On se moque des disciples. Mais moi, je me suis dit, si j'avais été disciple à ce moment-là, si j'avais été André, hein, imaginez-vous, ou si vous étiez même Pierre, hein, c'était un défi. C'est ce que le Seigneur fait parfois. Et ici, avec cette dame, c'est un peu ce qu'il fait. Il lui dit, ta foi, madame, ton mari, il avait beaucoup de foi, tu as vu combien il était un bon prophète. Donc maintenant, à toi de croire. Et c'est rempli, ça remplit, ça remplit. Et puis tout d'un coup, tous les vases sont pleins. Hé, Hans, donne-moi encore un pot. Hein? Je l'appelle Hans. Hein, pour... Non, j'aurais dû dire Gabriel, ce serait plus biblique. Hein. Voilà. Et donc, il n'y en a plus. Et là, j'aime cette phrase, et l'huile s'arrêta. Quand nous avons fait ce que Dieu nous demande, et que nous sommes arrivés à la limite de ce que Dieu demandait, on n'a pas besoin de plus. Mais cette brave veuve, je vais terminer maintenant, elle est vraiment incorrigible. Elle ne sait pas quoi faire de ses pots de vase maintenant. Elle n'a pas encore compris. Donc elle va voir le prophète. Bon, maintenant, et qu'est-ce que je fais maintenant avec mon huile ? Hein ? Ça a bien marché jusqu'à présent, et maintenant ? Ça, c'est le discours de quelqu'un à l'épreuve. On arrive à avoir l'aide du Seigneur, mais on ne sait quand même pas après quoi faire de cette aide. Vous savez, comme quand Pierre était en prison, l'Église prie, la prison s'ouvre, les portes s'ouvrent, les liens se défendent, et vous savez laquelle porte ne s'ouvre pas ? Celle du lieu où les gens priaient. Ils frappent, après finalement il y a une servante qui attend et qui dit « Allô, qui c'est ?» Il dit « C'est moi, Pierre !» Oh ! Panique ! Elle va vite dire à Pierre, aux autres disciples, il est devant la porte. Voilà. Ça, c'est nous. On prie, et quand le Seigneur commence à exaucer, on ne sait plus quoi faire. Et là, mais là, la patience du Seigneur est bonne. Il lui dit, ben voilà, maintenant tu as la solution, tu vas les vendre. Et voyez ici ce que ça me donne encore. Alors, si tu es dans l'épreuve que tu te sentis interpellé, je suis désolé parce que je te donne beaucoup de tâches à faire. Maintenant, il y a ta part à faire. Il faut aller le vendre. Et ainsi, tu seras sorti. Toi et tes enfants ne seront pas, emportés. Voilà, dans cette histoire, nous voyons donc ce que nous avons à faire pour être exaucés. Dans cette histoire, nous voyons le miraculeux que Dieu peut faire. Et dans cette histoire, nous voyons comment l'obéissance apporte la bénédiction et comment on peut sortir du désastre dans une épreuve victorieuse. Seigneur mon Dieu, je veux te prier maintenant pour mes frères et sœurs ici rassemblés. Je te prie, Seigneur, au travers de cette parole, de raviver la foi, de ne pas se laisser... de ne pas être oppressé par la puissance de l'ennemi qui veut nous décourager. Tu vois aussi le sentiment intérieur quand on est dans l'épreuve. Seigneur, je veux te prier pour chacune de mes sœurs et chacun de mes frères qui ce matin est venu à cette église en disant « Seigneur, viens à mon secours dans mon problème. Viens m'aider, Seigneur. » Et Seigneur, je veux te remercier parce que tu vas donner ta bénédiction. Alléluia. Amen.